Amen. Merci JD, merci tout le monde, merci à vous, merci d'être là. Je suis tellement content, touché, béni d'être ici. Waouh! Est-ce que vous êtes content d'être là? On a démarré, et JD l'a dit, on a démarré cette nouvelle année avec une soif et un désir de mettre des piliers dans cette église sur la culture qu'on veut vivre ici au sein de Connect Grenoble. Et on veut que ce soit courant, on veut que ce soit connu, on veut que ce soit pleinement identifié. Que les gens qui viennent ici à Connect Grenoble, on dit ça, c'est les valeurs de la famille. Ça, c'est important pour nous. Du coup, un des piliers fondamentaux, et on l'a prêché tout le premier mois, et je vous invite, ces messages sont disponibles également sur le site internet, c'est de vivre une culture autour de l'amour du Père. L'amour du Père, c'est quoi? C'est tout simplement de comprendre et de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, que nous n'avons pas besoin d'un titre, d'une position, mais juste on est aimé d'un grand papa. Et ça, c'est un des piliers, c'est un des moteurs de cette église. Et on l'a démarré en début d'année. Également, et là on rentre, il y a toute une série de messages, idées à prêcher sur les relations authentiques. On ne veut pas être falche. En italien, on dit on ne veut pas être faux, on veut être vrai dans nos relations. Si tu ne vas pas bien, tu ne portes pas un masque, que tu sois vrai. Et ça, on a envie de le vivre. Les amis, ce n'est pas parce qu'on dit on veut le vivre qu'on va le vivre. Vous comprenez? C'est pas une baguette magique. On peut pas. Il y a vraiment cette identification. On a besoin de chacun. On a besoin de tout le monde pour pouvoir vivre. Et c'est vraiment une invitation qu'on croit que Dieu vous tend, qu'il tend cette église pour pouvoir le vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Tourne-toi vers ton voisin, mets un petit coup de coude et dis c'est de toi qui parle. Dites ça à quelqu'un. Peut-être que. Réveillez quelqu'un à droite, à gauche. Et du coup, nous démarrons ce message aujourd'hui sur la culture de l'honneur. Dites avec moi, la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est quoi? La Bible nous met en garde contre les lèvres flatteuses, mais elle nous invite, elle nous dit « rendez honneur à qui honneur est dû ». Du coup, en commençant, première diapo, la culture de l'honneur, c'est quoi l'honneur? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, la culture de l'honneur dans la Bible, c'est un concept tellement riche, profond, qui traverse d'ailleurs l'Ancien, le Nouveau Testament. Elle ne se résume pas simplement à une petite formule de politesse, un respect superficiel, mais c'est vraiment le centre des relations humaines et dont Dieu nous invite à. Et ça fait partie aussi des relations authentiques. Du coup, première diapo, qu'est-ce que l'honneur dans la Bible? Le mot honneur, c'est un texte à partir du... Ouais, si tu veux juste arrêter, Eli, merci. Très désorienté. Le mot honneur dans la Bible se traduit par donner du poids à la valeur estimée, respectée profondément. En fait, l'honneur biblique, c'est profondément relationnel. Ça s'exprime de la manière dont on considère Dieu, les parents, les autorités civiles, les personnes même vulnérables et nos ennemis. Ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on ne peut pas voir. Vous savez, Dieu dit « aimez-vous les uns et les autres ». Moi, j'aime bien les uns, c'est avec les autres que j'ai des problèmes. Vous comprenez? Et du coup, c'est vraiment cette dimension de l'honneur. Prochaine diapo, l'honneur, cela implique de parler avec respect, de corriger sans rabaisser, de se servir sans chercher à dominer, de bénir même ceux qui nous ont offensés. Seigneur! Et ça s'oppose tellement à la culture ambiante générale dans laquelle nous vivons, qui est la culture du mépris, une critique permanente. Ah, ça, en tant que Français, qu'est-ce qu'on a une capacité à dire ce qui n'est pas bon chez les gens? Vrai ou pas vrai? C'est inné chez nous. C'est très, très facile à dire ce qui ne va pas. De bénir ceux qui nous ont offensés. La critique permanente, la hiérarchie des valeurs humaines. Souvent, on juge selon l'apparence, selon la richesse, selon le statut. Et au pharisaïsme, ça c'est l'aspect religieux qui honore en apparence mais qui rabaisse en réalité. Du coup, en tant que mari, nous honorons nos femmes. Je m'attendais à un amen masculin, je vais le redire. En tant que mari, nous honorons nos femmes. Ah. En tant qu'épouse, elles honorent les maris. Il y a un petit amen féminin, hein. En tant qu'enfant, en tant que parent, nous honorons nos enfants. En tant qu'enfant, nous honorons nos parents, papa, maman. Et en tant que paroissien ici, en tant qu'église, on honore aussi ceux qui sont responsables, ceux qui nous enseignent. La Bible, elle le dit dans 1 Timothée 5, 11, que les anciens, ceux qui prêchent, soient dignés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, l'enseignement. Et là, je ne suis pas en train du tout de dire « honorez-moi », mais comprenez-moi que pendant des années, moi aussi, j'étais dans une église, j'étais avec un pasteur qui était un père pour moi, et il y avait cette dimension où j'honorais l'homme de Dieu qu'il était parce que Dieu l'avait mis à ma place. Et Dieu l'avait mis, excusez-moi, maintenant je suis à sa place, mais Dieu l'avait mis à une place dans ma vie où je voulais l'honorer. Parce que tout simplement, c'est pas évident des fois. Et souvent, je fais une petite aparté, il y a des fois je ne comprenais pas mon leader, le pasteur. Moi j'étais un jeune fougueux, je voulais faire plein de choses, je voulais prêcher, je voulais faire... Puis je dis, il ne voit pas tout le potentiel qu'il y a en moi. Mais pendant des années, la seule chose que Dieu m'a demandé à faire dans cette époque et cette saison de ma vie, c'était que j'étais en formation. Et j'ai énormément appris sous ce monsieur-là qui est devenu un père pour moi. Et en tant qu'humain, on honore Dieu. Disant ce matin, il y a du mal. En tant qu'humain, on honore Dieu, Lionel. Amen. D'accord. Du coup, l'honneur, elle nous donne accès à l'onction, tandis que le déshonneur nous ferme l'accès à Dieu. Et la culture de l'honneur, elle commence à la maison. Ouch. Ainsi, l'honneur favorise, élève, quand le déshonneur rabaisse, méprise. L'honneur, je le dirais de cette façon, l'honneur bénit, le déshonneur maudit. L'honneur construit des relations solides dans le temps, le déshonneur détruit. Et si l'amour devait ressembler à quelque chose, l'honneur en est une facette. Je vais le redire. Si l'amour devait ressembler à quelque chose, l'honneur en est une facette. Et en fait, souvent, la loi du déshonneur, ou je dirais le déshonneur, quand on méprise, souvent ça commence avec... Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est normal parce que je suis blessé ». Vous avez déjà entendu ça ? Je suis blessé, donc je me suis permis de dire les choses. Ou, plus français, plus subtil encore, c'est je donne mon avis. Vrai ou pas vrai ? Il y a quelques années de ça, il y a 3 ans de ça, je me baladais avec mon épouse à Toulon. D'ailleurs, je salue et j'honore aujourd'hui mon beau-frère Jonathan et Marisa, son épouse. Est-ce qu'on peut juste les applaudir ? Ils sont là en visite aujourd'hui. Marina. Et j'étais avec mon épouse dans le sud, place du Mourillon, c'est un endroit qui est très charmant, lumineux, etc. Et il y a des petits restaurants qui sont là. Et puis, juste après une journée de baignage, je dis à ma chérie, écoute, on n'a pas les enfants, profitons. On va au restaurant juste à côté. Puis il y avait un restaurant qui était là et je rentre. Et là, tu sais, c'est un moment où tu n'as pas les enfants. C'est un moment unique dans la vie d'un homme, dans la vie d'un père, ne pas avoir d'enfants. Et là, mon épouse, elle était là, puis je dis, écoute, chérie, prends ce que tu veux. Et il y a le serveur qui vient, puis tu sais, un serveur parisien, très, très, tout de suite dédaigneux, qu'est-ce que je vous sers ? Tu sais, un peu face d'acier. Waouh, il est bizarre un peu le monsieur, là. Puis, et tout d'un coup, il me ramène un plat, mais un plat dans lequel il y avait vraiment une odeur très indélicate. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis je lui fais la remarque, ou plutôt de dire, tu sais, excusez-moi monsieur, je vais le changer, pas du tout. Il me prend de haut, puis c'est comme ça, puis si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Et waouh, oh dis donc, oh pétard, on est en France. Et je me rappelle, le soir, de ma plume rageuse, je suis allé sur Google Avis. Tu sais que maintenant, tu peux donner ton avis avec Google. Tu peux mettre des étoiles, Fafa, il connaît bien. Fafa, c'est le... Il y a un gars, c'est un chef d'entreprise qui est ici et tout ce qu'il veut, c'est qu'il mendie des avis Google. À chaque fois qu'il va voir quelqu'un, il fait « Oh, tu m'as laissé un avis. » Tu vois, d'ailleurs, même au niveau de l'église, il y a des gens, parfois, qui nous laissent des avis et même on peut avoir des avis négatifs et c'est OK. Et là, ce soir-là, j'ai mis un avis pourri, je me suis vengé, un petit bonhomme rouge, j'ai mis une étoile, et puis j'ai marqué en majuscule « Fuyez, fuyez, c'est un voleur !» Vous comprenez, bon, vous avez compris l'idée, hein, je vous laisse place à l'imagination. Et puis, j'ai continué ma vie. Et puis un jour, je reçois une prochaine diapo, Voilà, merci pour votre contribution. Google, il m'a dit merci parce que j'ai dit mon avis. Oh, tu sais, maintenant, on te remercie, Google. Il dit, c'est sympa. Est-ce que ton avis était constructif ou pas? Lui, il s'en fout. Il dit juste merci d'avoir donné ton avis. Et puis, petit à petit, Google m'envoie d'autres notifications en me disant, il y a d'autres personnes qui ont aimé ton avis. Ben oui. Et là, tout d'un coup, je réalise que, si tu reviens juste en arrière, je réalise que j'ai ouvert une voie et c'est comme si le Saint-Esprit commence à me... je me sens mal à l'aise avec ça. De plus en plus, je me dis, mince, j'ai ouvert une voie à la médisance, à la critique. C'est comme si j'ai ouvert une porte d'influence. On va y arriver. C'est... Je t'honore, mon ami. J'ai ouvert une porte à l'influence, à quelque chose qui n'était pas bon, et dans lequel il y a plein d'autres gens mécontents qui s'allient à mon avis. Est-ce que vous me suivez? Je pense que lui a raison, et puis c'est vrai, et puis c'est un restaurant pourri, etc. etc. Les amis, si on peut juste arrêter de toucher. Ouais. Voilà, juste ça. Et du coup, restez avec moi. Et du coup, j'ai vraiment commencé à me poser la question et chantais le Saint-Esprit qui m'a dit « Jo, t'as mis cet avis Google ?» Et là, moi, j'ai commencé à plaider avec Dieu. « Ouais, mais c'est normal, mais t'as vu ce gars, comment il nous a reçus, etc. etc. » Et le Seigneur il m'a dit « Mais si tu le fais avec un restaurant, tu vas le faire dans la vraie vie auprès des autres et dans tes relations. » Et la vraie question, et moi j'essaie de plaider avec Dieu, ouais mais je donne juste mon avis, mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Dieu vous appelle à bénir ou à maudire? Peu importe si tu donnes ton avis, c'est quoi, à quoi Dieu t'appelle? Et il y a plein de gens qui disent, oui mais j'ai le droit de dire ce que je pense, ouais, mais est-ce que tu as le droit de dire ce que tu penses en descendant, en tuant les gens? Est-ce que tu as le droit de tuer et de descendre parce que quelqu'un t'a déçu? Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Et Martin Luther King, la prochaine diapo, voici ce qu'il dit, et c'est très touchant. Il dit, pour se faire des ennemis, c'est pas la peine de déclarer de la guerre, faut juste dire ce que tu penses. Et quelque part, des fois, on légitime notre péché sous prétexte que quelqu'un nous a mal parlé, sous prétexte que les mots M-A-U-X nous ont été infligés, j'ai été blessé, on m'a fait du mal. Donc voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai lu un témoignage d'un chef qui lisait les avis Google et en fait, il a poussé un coup de gueule. Coup de gueule du chef, c'était un article dans Le Monde où il dit « Je me démène, je ne vois pas ma famille et j'ai des envies de suicide parce que je donne tout ce que j'ai. » Et il témoigne que quand il lisait les avis Google négatifs dans des moments de fragilité, ses paroles étaient comme un coup de poignard dans son âme. En fait, il y a des fois où tu n'arrives pas à gérer ce que les autres disent sur toi. Et sous prétexte, j'ai le droit de dire ce que je veux, ce que je pense. Ben oui, mais tu vas aussi rendre compte devant Dieu, un jour, de ce que tu as dit, comment tu l'as dit, dans quelle volonté. Du coup, j'avance. Vivre une culture de l'honneur, c'est, prochaine diapo, voir les autres comment Dieu les voit. Refuser des paroles blessantes, des jugements rapides, encourager, bénir, valoriser les dons, l'appel des autres, honorer les autres, même quand ils ne le méritent pas humainement, c'est une réponse de Dieu. L'honneur voit la valeur que Dieu a placée dans la personne, même quand les autres ne la voient pas. Honorer, ce n'est pas forcément approuver, mais c'est aimer comme Dieu aime. Vous êtes avec moi ? Là où le monde méprise, l'honneur va élever. L'honneur ne répond pas à ce que tu mérites, mais elle témoigne de comment Dieu voit ses enfants. L'honneur n'est pas un réflexe humain, c'est une décision parfois difficile, mais qui est alignée selon la culture du ciel. Là où l'honneur disparaît, la présence de Dieu se retire. Les amis, j'aimerais très rapidement ce matin vous présenter un personnage biblique qui nous montre cette culture de l'honneur que nous voulons vivre ensemble à Connect Grenoble. C'est David. David, dans l'histoire de la Bible, je vous l'invite à lire, c'est dans 1 Samuel, 2 Samuel. David, pour vous le faire simple, pour ceux qui n'ont pas de culture biblique, laissez-moi vous le présenter. David, c'était un simple berger, un petit berger qui est devenu roi d'Israël. Et ce qui est touchant dans cette histoire, histoire, c'est par un matin ensoleillé, alors que personne ne le voyait, alors qu'il continuait à prendre soin de ses brebis, personne ne l'avait vu, il y a un homme de Dieu qui était prophète, qui s'appelait Samuel, qui est venu et qui lui a dit « Toi, petit garçon, tu vas devenir le roi de cette nation. » Et il lui a versé de l'huile qui était le symbole de la présence de Dieu sur la vie d'une personne. Et il a dit « Maintenant, l'Éternel est avec toi. » Et même le texte, et la phrase est touchante, c'est « Dès ce moment-là, l'Éternel saisit David. » C'est comme si Dieu il était avec lui partout où il allait. Et David n'était même pas considéré par son père, et certains commentateurs bibliques vont même un peu plus loin. Ils disent que c'était même pas. Il était né probablement d'une relation adultérine. Il était né dans le péché, il le dit dans un de ses psaumes plus tard. Et au casting pour un futur roi d'Israël, alors que ce fameux prophète vient et qu'il cherche un roi, son père appelle tous ses enfants et il ignore David, il le cache. Et là, le prophète va dire, non, il faut que, est-ce que c'est là tous tes fils? Puis finalement, on appelle David, et là, Samuel le roi comme roi d'Israël, en présence de ses frères. Et il va dire une phrase célèbre. Il va dire, l'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que dans tes motivations, dans comment tu fais les choses, qu'est-ce qui te propulse dans la vie? Quel est le moteur? Quel est le combustible? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te drive? C'est ça qui intéresse Dieu au plus haut point. C'est Jean-Jacques Goldman qui dira cette fameuse chanson, « On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. Aurais-je été pire ou meilleur que ces gens si j'avais été allemand ?» Et ça pose une question. C'est de dire, si j'avais été comme ces gens-là, dans cette même culture, dans ce même environnement, est-ce que j'aurais été mieux qu'eux? Et David, et c'est exactement cette phrase qui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Autrement dit, l'honneur va voir la valeur que Dieu a placée quand les autres ne le voient pas. J'avance un petit peu. Du coup, David va recevoir l'onction comme roi d'Israël. C'est fait, c'est plié, c'est voté, c'est lui. C'est lui le roi, c'est ça y est. Et dans un moment où il n'y a pas eu fanfare, tambour et trompette, il n'y a pas eu flash news, TF1, clac, clac, oh David, salut, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens, tu vas être roi. Rien de tout ça. Mais les spots du ciel sont sur lui. Il a reçu l'onction. Et dès ce moment-là, il y a un peu Dieu qui regarde comment est-ce que tu vas traiter les autres, est-ce que tu vas prendre la grosse tête, comment est-ce que tu vas être. Et je vous invite vraiment à lire l'histoire. Mais David va être projeté par un hasard divin, j'allais dire, à la maison du roi en place, Saül. Et du coup, on va avoir deux rois. Un roi que Dieu approuve et un autre roi que Dieu a rejeté. Et David est là. Et le job de David à ce moment-là, écoutez ça, c'est que le roi Saül est complètement fou, il est démonisé, il y a des mauvais esprits qui sont sur lui, il est capable du pire comme du meilleur, il est complètement fou. Et on invite David à louer le Seigneur à côté de lui, parce que ça apaise le roi. Juste la louange. Et David venait avec une harpe, il chantait toute sa relation avec Dieu, et le roi Saül était touché quand il voyait ce petit berger qui chantait l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est comme s'il s'identifie, il est touché, et il est comme apaisé momentanément, mais il est très open down. Et David est à côté de Saül, à faire cette louange. Et la folie de Saül fut progressive. Plus le temps passait, plus il devient paranoïaque, tourmenté, mais il est là encore au pouvoir. Et prochaine diapo, le lendemain, je le lis pour vous, le lendemain, un mauvais esprit venait sur Saül, venait de Dieu, saisit Saül qui était dans la maison, et David jouait de la harpe tout comme les autres jours, et Saül prit une lance à la main. Saül se leva de sa lance et il dit, je vais frapper David contre la paroi, mais David l'évita par deux fois. Les amis, donnez-moi un moment ici. Franchement, il y a mieux comme job. On te dit, voilà, demain matin, j'ai un job pour toi, Karen. C'est que tu vas aller chez notre premier ministre, tu vas jouer du piano, tu vas prier pour lui, mais de temps en temps, il est un peu,
il est un peu fâché et il risque de prendre un vase et de le jeter dessus. Mais c'est OK. Il faut que tu continues ton job. Est-ce que vous me suivez ? Saül prenait une lance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est là pour toi, le garçon. Il est sympa. Tu l'as invité. Il était comme là, je vais le tuer. Mais oh, t'es pas bien. Faut te faire soigner. Et c'était le roi en place. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que faites-vous quand on vous jette une lance ? Alors, voilà ce qu'on fait. C'est qu'on l'évite. Si j'étais moi, je prends la lance, j'en casse et j'en ai deux. Et je la renvoie deux fois plus fort. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est l'esprit français. Sauf que David a fui. Il s'est barré. Et j'aimerais vous dire, les amis, parfois, vous êtes invités à ne pas rester dans l'endroit de l'abus, dans l'endroit toxique. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation toxique. Je vous invite à couper, à ne pas rester dans l'endroit où c'est médisant, où c'est abusant, où il y a quelqu'un qui vous détruit. Il y a des fois, la réaction spirituelle, c'est de vous barrer. Je dis ça à bon entendeur, salut. Et si vous restez sous une relation toxique, ça devient problématique. Du coup, il n'a pas cherché à se venger du roi en place, de l'autorité en place. Il a fui. Et Saül va le pourchasser pendant 7 à 10 ans pour pouvoir le tuer. Et le roi déchu poursuit le roi élu par Dieu. Prochaine diapo, point numéro 2. Du coup, la question, c'est comment est-ce que tu traites tes ennemis ou ceux que Dieu te confie. David partit de là, prochaine diapo. David partit de là, il se réfugia dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute sa maison, maman, papa, toute la maison, de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. En fait, c'était un truc de famille. Puis finalement, il y a d'autres. Écoutez ça, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de David et il devint leur chef. Il y avait environ 400 hommes. Si vous rajoutez les femmes, on monte à 800. Si vous rajoutez les gamins, bref, certains commentateurs bibliques pensent à peu près 1500 personnes. Du coup, 1500 personnes autour de David. Et là, on dit à David, « Wouhou, David, c'est ça ton nouveau royaume. Waouh !» Des gens qui ont des dettes, des gens qui sont mécontents, des gens qui sont meurtris, des gens, faut pas mal me parler, hein, vous comprenez ? Des gens qui ont été blessés sous le royaume de Saül, et des gens qui peuvent dire, tu sais, le roi, l'autorité spirituelle, religieuse, peut-être l'église, moi ça va, j'ai donné, je suis blessé. Est-ce que vous comprenez ? Et David va leur transmettre une culture différente. David va créer en eux, dans le cœur de ces hommes, une mentalité différente qui est la culture de l'honneur. Il va les honorer, il va les construire, il va tous ces rescapés du royaume de Saül, qui vivaient comme des parias, des fugitifs, avec leurs femmes, leurs bébés, blessés par l'ancien roi, qui ont du mal à nouveau à faire confiance à un roi. Ils sont encore sous cette menace de Saül. Ils sont tous en cavale, tous fugitifs. Hein. Imaginez là. Là, on est quoi ? On est 100 personnes. Imaginez 1500 personnes. On est tous fichés S par le gouvernement. On court, dans le Vercors. Vous imaginez un peu le truc ? C'est hallucinant. Et il y a un roi qui veut nous tuer. Et c'est usant émotionnellement. C'est usant. Il n'y a aucune stabilité. Ils se sentent rejetés, frustrés, abîmés par la vie. Et David ne va pas les mépriser. Il va les honorer, il va créer cette nouvelle culture. Et David avait comme le regard sur ces hommes et ces femmes. Là où le monde voit des rebuts, Dieu y voyait une armée. Ces hommes étaient blessés, démolis. Parce qu'un blessant, un blessé est blessant. Souvent, quand. Et David, c'est comme s'il va créer une nouvelle mentalité, il va les honorer. C'est l'image ici, donnez-moi juste. Si on fait juste une pause ici. C'est l'image de l'église où on vient de tous différents arrière-plans. Vous avez été blessé, j'ai mon historique à moi également, mais ensemble, on veut vivre quelque chose de différent. Vous êtes avec moi ? Que tout le blessé dise amen. Amen. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec tes blessures ? Est-ce que tu vas continuer de te comporter comme un blessé ? Ou est-ce que tu vas accepter que Dieu te guérisse ? Et de rentrer dans une façon de parler, dans une façon de te comporter, dans une façon d'agir qui était différente. Du coup, David ne va pas les juger à cause de leur vie passée, il va les honorer. Et en fait, j'aimerais vous dire ceci, il y a deux volets à la culture d'honneur. C'est comment tu traites tes amis, mais également comment tu traites tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé. Et là, c'est le niveau au-dessus, ceux qui veulent te tuer. Et quand on parle de la culture de l'honneur, la vraie question, c'est comment traiter ceux qui ne sont pas dignes d'honneur. Point numéro 3, comment tu traites tes ennemis. Et pour moi, et donnez-moi toute votre attention et je termine ici. Quand on parle de la culture de l'honneur, pour moi, l'aspect le plus important, c'est comment est-ce que tu vas traiter les gens, pas tes amis, pas ceux que tu aimes bien. Les mafieux font la même chose. Vous comprenez ? C'est comment tu vas traiter ceux qui te font du mal, ceux qui parlent mal sur toi. Et quand tu agis comme ça, c'est comme s'il y a tous les spots du ciel qui te regardent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Et voilà pour David, et on termine avec ceci, et c'est tellement touchant. Lorsque Saül, dernière diapo, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici que David est dans le désert d'Eth-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite, des vrais gaillards, des hommes surentraînés. Il partit à la poursuite, à la chercher David et ses gens et sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près d'un chemin. Il se trouva une caverne où là, il entrit pour se couvrir les pieds, pour se reposer. Et David et ses gens étaient au fond de la caverne. L'image, elle est digne d'un film. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te le livre, te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Et David se leva, alors qu'il y avait Saül qui était rentré à l'entrée de cette caverne-là, David coupa un pan du manteau royal de Saül, et après son cœur battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et ses gens dirent à David, mais que l'Éternel, excusez-moi, David revint vers ses gens et lui disent, mais que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur le oint de l'Éternel une action telle de porter la main sur lui, car il est oint de l'Éternel. Et par ces paroles, David arrêta ses gens, il les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se leva pour sortir de la caverne. Et il continua son chemin. Waouh ! Là, il y a tout un moment. David, ça fait depuis des années qu'il est pourchassé par Saül. Il est fatigué. Je vous ai dit que c'est usant émotionnellement. Il n'y a aucune stabilité. Et tu vis dans le stress permanent. Il y a tous des gaillards qui sont autour de lui, qui ont été blessés, qui ont été meurtris. Il doit gérer de plein de niveaux, plein de choses qui ne vont pas. Est-ce que vous me suivez ? Et tout d'un coup, ils sont 1000 personnes, mais Saül vient avec 3 hommes d'élite qui veulent tuer hommes, femmes et enfants. Et ils vont se réfugier au fond d'une caverne et sont pris au piège. Et Saül, avec toute son armée, vient dans la caverne se reposer. On va dire ça comme ça. Et au fond de la caverne, il y a ces hommes meurtris du royaume de Saül. Et là, je parie sur Joab, un de ses plus vaillants hommes. Un Tchétchène, un rugueux, un homme d'élite, tu vois, un vieux de la vieille. Quand il le voit arriver, seul, désarmé, il chuchote au fond de la caverne, « David, tu te rappelles, il y a 2-3 ans, quand tu nous as appelés à te suivre, on était au bord d'un feu. » Et tu m'as rappelé ce moment où Samuel était venu te oindre d'huile et il t'avait dit, tu seras le roi d'Israël. Et David, nous, on t'a cru, les gars. Hein, ouais, on t'a cru et on t'a suivi, David. Mais là, tu vois, là, ce gars-là qui nous a fait du mal. Eh bien là, David, ça, c'est le Seigneur, David. il a peut-être amené une petite épée en disant « Tiens, à toi l'honneur, c'est pour toi !» Le roi était venu là, et David se lève avec ce poignard, avec cette dague, il va vers Saül, il se retire au fond, et les hommes d'Élide se disent « Ah, enfin !» Eh les amis, ce soir, c'est plié, on rentre chez nous, c'est terminé, il va le tuer, ce sera bien fait, vite fait. Et David vient, et c'est touchant, l'image, pouvez-vous imaginer le ciel à ce moment-là, c'est comme si Dieu regarde David. Et David vient, et il coupe un bord du manteau de Saül. Wow. Pouvez-vous imaginer ces hommes ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, tue-le ! Il découpe juste un bord du manteau. Et vous devez comprendre que ce manteau royal représentait le poste, représentait l'autorité. Et David vient avec ce morceau de manteau vers ses hommes en disant... Et en fait, il y a trois choses par cet acte que David a dit. Trois choses que j'ai notées. La première, c'est que David considérait Saül comme son seigneur. Lorsque Saül n'était plus digne de ce titre, David a continué de lui témoigner de l'honneur. Pourquoi ? Parce que l'honneur ne dépend pas de ce que l'autre mérite, mais de la position de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Waouh ! Et tu vas honorer ceux qui ne sont pas dignes parce que c'est la mentalité de Jésus qui dira « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la deuxième chose que David enseigne par cet acte, et moi c'est touchant en fait quand il dit « Mais c'est mon Seigneur, je vais pas toucher le oint de l'Éternel. » En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je vais pas remettre en cause les choix que Dieu a fait dans le passé. » Je ne vais pas détrôner ce que Dieu a couronné, parce qu'il reconnaît que Saül a été oint malgré son injustice, il a la crainte de Dieu, il respecte l'autorité mise en place par Dieu, même quand celle-ci fait des mauvais choix. J'aimerais vous dire, quand il y a des gens en leadership au-dessus de vous, que ce soit des chefs d'entreprise, des pasteurs, des leaders, quand ils font quelque chose qui est mal, comment est-ce que vous allez réagir ? Et la dernière chose, quand il vient avec ce manteau à la main, ce que David est en train de dire, c'est je ne veux pas de royauté, je ne veux pas le titre, la position. Ce manteau, c'était pour lui, en ce qui concerne David, c'était son appel, c'était sa destinée. Il devait prendre la place de Saül. C'est la place qui lui revient de droit, c'est ce que Dieu m'a promis. Mais David vient et il dit, je ne cherche pas ces choses. Et surtout, écoutez bien ceci, je n'arracherai pas quelque chose que Dieu veut me donner. Je ne vais pas lui arracher le manteau royal quand c'est Dieu qui voulait me le donner. Et c'est tellement touchant par cet acte d'honneur, dernière diapo, il reconnaît que Dieu a l'autorité sur toute chose, même sur ce que les gens disent sur lui, sur l'offense qui lui a été faite, même quand l'homme en face ne se comporte pas dignement. Il dit également qu'il refuse la vengeance malgré la persécution injuste. Il honore le rôle de Saül, même si la personne ne mérite pas son respect humainement parlant.